Basile, votre application de recherche immobilière, présente
Sud Radio, parlons immo, Sylvain Lévy-Valency.
Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver. Voilà, pour chaque semaine, chaque samedi de 12h à 13h, on se retrouve sur Sud Radio, bien évidemment, pour parler de votre immobilier et de votre logement. Parlons Immo, c'est votre émission un peu partout dans les territoires. Alors cette semaine, on est, alors une fois n'est pas coutume, au salon de l'association des maires d'Île-de-France. Voilà, on enregistre cette émission, mais il est samedi pour vous et vous êtes quasiment à table. On vous souhaite un excellent week-end et on va vous restituer toute l'information que nous avons collectée cette semaine. Voilà, bonjour à toute l'équipe de Radio Immo qui m'accompagne tous les samedis de 12h à 13h avec Bérénice de Villefleurio. Comment ça va, Bérénice, aujourd'hui ?
Eh ben, en pleine forme, c'est un super salon. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde. On est ravis d'être là et ça fait du bien de discuter avec les élus locaux, les maires d'Île-de-France.
Voilà, on aime les maires, il faut réaffirmer. On aime les maires.
Bravo à eux.
On a vraiment une grande affection pour eux. Avec l'ami Grégoire aussi qui est avec nous. Comment ça, Grégoire ?
Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Tout va bien.
Eh bien, écoute, super. On va passer un beau moment ensemble en parlant justement des élus locaux. Construire mieux, loger mieux, rénover les centres-villes face à la crise du logement. Les maires sont en première ligne, mais encore, est-ce qu'ils ont encore les moyens d'agir? On en parlera tout à l'heure avec notre grand invité, c'est Stéphane Baudet, maire d'Évry-Courcouronnes et surtout président de l'association des maires d'Île-de-France. Nous écouterons également tout à l'heure nos auditeurs après avoir récolté leurs questions par SMS en envoyant I2MO au 728. Avec vous, Bérénice de Villefleurio, on va parler d'eux.
Et on va parler à l'approche de l'été et à la suite du mois de mai, des ponts de mai, de cambriolage. Comment bien se protéger, justement? On va en parler avec la gendarmerie, la fédération, justement, qui représente, la police municipale. On va en parler avec la Fédération nationale des policiers municipaux. On recevra Thierry Colomard, le président.
Absolument, nous avions déjà reçu à plusieurs reprises. On est très heureux qu'il soit avec nous. Il est d'ailleurs avec nous sur le plateau. Ensuite, nous allons recevoir notre super expert, le docteur de la rénovation énergétique partout dans le pays avec notre ami Laurent Permas et vous, Grégoire Daricot.
Et oui, Sylvain, avec Laurent, hein, salon de la MIF oblige, on va voir ensemble le rôle important des maires dans la rénovation énergétique. Et puis ensuite, dans notre chronique Maison Saine, je vous expliquerai pourquoi vous êtes bien dans certaines maisons, mais pas dans d'autres. Et puis enfin, on vous proposera cette semaine un petit tour de France des biens coup de cœur. Nous irons à Montpellier et sur l'île de Rieck, dans le Morbihan.
Absolument. Voilà, il va bien notre ami Laurent Permas aujourd'hui.
Je suis ravi d'être au salon des maires d'Île-de-France, en attendant celui des maires de la France.
Voilà.
Mais comme la fête des maires est passée.
Ah, voilà. C'est vrai.
Comme dirait notre super Céline Dion, qu'est-ce que je suis heureux de vous voir. Merci. En tout cas, et tout de suite, sans plus attendre, les infos à retenir de la semaine.
Sud Radio, parlons immo. Sylvain Lévy-Valency.
Alors, le programme des infos de la semaine à retenir, Bérénice.
Alors, au programme aujourd'hui, bonne nouvelle pour ceux qui veulent acheter un bien immobilier. C'est le moment. Certaines banques repartent à l'offensive avec des taux de crédit immobilier très bas. Je vous dirai lesquels. Ensuite, déménager en arrêt maladie. Eh bien, c'est possible, mais sous conditions strictes. Je vous expliquerai. Et enfin, une histoire de famille qui finit très mal. Un fils condamné à rembourser 287 000 euros après avoir vendu en secret la maison familiale.
Ouh, c'est chaud, là. Alors, on va commencer déjà par une bonne nouvelle. Une fois n'est pas coutume également, pour ceux qui veulent acheter, les banques seraient de nouveau prêtes à prêter.
Oui, et là vraiment c'est une fenêtre de tir à regarder de très près si vous avez un projet immobilier. En fait, depuis quelques semaines, certaines banques sont en retard sur leurs objectifs de production de crédit. Il y a eu un début d'année plutôt dynamique en janvier-février, puis un coup de frein avec la guerre, il y a eu de l'attentisme de la part des acheteurs, des visites reportées, et puis le mois de mai avec ses ponts, ses jours fériés, les banquiers étaient en vacances. Résultat, certaines banques veulent refaire du volume, et quand une banque veut prêter, elle peut accepter de réduire un peu sa marge pour attirer de nouveaux clients. Exemple très concret, une grande banque nationale offre aujourd'hui un taux unique à 3,10%, c'est la Société Générale, donc 3,10% sur 20 ans pour tous les profils. Donc c'est assez inédit, donc c'est pas mal, allez-y, parce que sinon sur le mois de juin en moyenne les taux c'est 3,50 sur 20 ans. Donc sur un prêt par exemple de 300 000 euros, ça vous fait quand même économiser 14 600 euros. Donc allez-y, attention quand même à votre dossier, parce que c'est pas open bar non plus pour les banques, elles acceptent quand même des dossiers solides. Donc, mais allez-y, allez voir un courtier, ça peut vous aider.
Alors, une info qui peut concerner beaucoup de monde, est-ce qu'on peut déménager en arrêt maladie, Bérénice ?
Eh bien oui, on peut le faire, mais sous certaines conditions. Première étape est obligatoire, l'autorisation de votre médecin traitant. Son feu vert doit être écrit, sinon vous ne pouvez pas déménager. Et attention, si vous le faites quand même, la Sécurité sociale peut suspendre le versement de vos indemnités journalières, si vous n'avez pas le mot du médecin, jusqu'à la fin de votre arrêt. Donc ce n'est pas un détail. Donc si votre médecin donne son accord, il y a quand même quelques règles à respecter. Attention de ne pas vous faire mal, porter les cartons. Si vous êtes un peu faible, voilà, vous devez vous faire aider. Et puis côté administratif, vous devez prévenir votre employeur par écrit, par mail ou par une lettre recommandée en joignant le certificat médical. Et même chose avec votre caisse d'assurance maladie. Pourquoi ? Parce que votre employeur a le droit de mandater un médecin pour vérifier votre arrêt à domicile. Donc, il faut le signaler. Et dernière chose à savoir, un salarié a le droit à un jour de congé rémunéré pour un déménagement. Donc, n'hésitez pas à demander à votre employeur.
Alors, très très rapidement, une petite histoire sympathique, le côté patrimonial, une donation immobilière qui tourne très très mal.
Oui, c'est l'affaire. Donc, c'est des parents qui avaient donné une propriété rurale à leurs deux fils, mais l'acte de donation prévoyait une clause très claire, interdiction de vendre, d'échanger ou d'hypothéquer le bien sans l'accord des parents, c'est assez courant. Et bien un des fils l'a vendu dans le dos de tout le monde. Comment il a fait ? Il a imité la signature des parents. La vente est partie pour 287 000 euros et la justice a tranché, parce qu'évidemment il y a eu, des recours en justice. La clause d'interdiction avait été violée selon la justice, et donc il a été condamné. Le fils, il doit restituer le prix de vente à l'acquéreur. Et le notaire a aussi été condamné car les juges ont considéré qu'il aurait dû vérifier davantage les procurations. On n'imite pas la signature des parents. Voilà. Donc c'est une affaire assez dramatique quand même.
Vigilance, vigilance. Merci Bérénice. Et tout de suite, on attaque le chantier du siècle.
Avec Sofinco, baissez votre consommation d'énergie en lançant vos travaux d'éco-rénovation. Sofinco présente...
Sud Radio, parlons éco-rénovation.
Avec vous, Grégoire Daricot.
Et oui, aujourd'hui, on est en direct du salon de l'AMIF, l'Association des maires d'Île-de-France, le grand rendez-vous des maires et des collectivités locales. Justement, Laurent Permaz, bonjour. Quand on parle rénovation énergétique, on pense souvent à l'État, aux aides nationales ou aux artisans, mais rarement à sa mairie.
Oui, bonjour Grégoire. Et oui, et pourtant, en fait, les communes jouent un rôle souvent sous-estimé, et sans elles, en fait, beaucoup de projets de rénovation énergétique, mais aussi d'adaptation du logement pour le bien vieillir, ne verraient jamais le jour.
Laurent, quel rôle peut concrètement jouer une mairie ?
Alors, déjà, c'est la grande proximité. On sait où se trouve sa mairie. Elle a un rôle d'information. Elle le fait déjà pour beaucoup d'autres services. Et puis, les aides, les démarches, les devis, les obligations liées au DPE, au diagnostic de performance énergétique ou à la location, beaucoup de propriétaires sont totalement perdus. Ouais. Et justement, la mairie peut être un très bon endroit pour, et c'est un bon réflexe, pour se rappeler que ce n'est pas un ministère, mais au contraire, que ça permet justement d'être très fluide et d'avoir des explications très simples, avec notamment les espaces conseils France Rénov, qui sont souvent assez proches des mairies.
Exactement, Laurent, les mairies proposent des permanences. Laurent, on parle beaucoup des aides nationales, à raison, on en a beaucoup parlé dans cette chronique, mais c'est vrai, Laurent, que les collectivités, elles peuvent aussi aider financièrement.
Et alors ça, c'est le scoop, en fait, parce qu'on l'a totalement oublié, et les Français, on entend souvent parler de MaPrimeRénov, ouais. MaPrimeAdapt, ou les certificats d'économie d'énergie, mais à rarement le maire qui propose en fait un coup de pouce. Et c'est au contraire des villes comme ou des départements proposent des aides complémentaires pour l'isolation, pour la rénovation globale, pour les copropriétés ou encore les sorties de passoires thermiques. Donc vous voyez, c'est très concret. Si on prend un exemple, un ménage mobilise une aide nationale, MaPrimeRénov, pour isoler sa maison, mais bénéficie en plus d'une aide locale de quelques centaines ou milliers d'euros. Il faut questionner sa mairie à chaque fois avant de commencer les travaux.
Exactement, ça peut faire basculer la décision de réaliser les travaux. Et puis Laurent, les communes, elles rénovent également leurs propres bâtiments. On oublie ça aussi.
Et oui, nous sommes tous allés à l'école communale, donc en fait, ou en tout cas au gymnase. Elles sont propriétaires de milliers de bâtiments, écoles, mairies, salles des fêtes, là aussi pour les mariages. Et lorsqu'une école est mal isolée, moi je m'en rappelle, j'avais froid l'hiver, chaud l'été, consomme beaucoup trop d'énergie, ce sont justement des finances publiques qui en pâtissent. Et les enfants que nous avons été, subissent justement l'inconfort. Voilà, les communes investissent donc dans l'isolation, le remplacement des chaudières et puis l'installation de panneaux solaires. On en voit de plus en plus. C'est un effet d'entraînement auprès des habitants qui se disent, tiens, c'est une bonne pratique.
Je pense à mon fils aîné qui a passé la semaine dernière un après-midi torse nu dans sa classe tellement ils avaient chaud, m'a-t-il dit. Bon, Laurent, on a parfois l'impression que la transition énergétique se décide à Paris, mais...
Et non, en fait, même si on a le plan d'électrification, on s'aperçoit qu'il est ensuite travaillé, relayé par les préfets, par les communes, et les collectivités, justement, travaillent sur les réseaux de chaleur, l'éclairage public, les bâtiments publics, l'accompagnement des habitants, bien évidemment, et la lutte contre la précarité énergétique. Autrement dit, la rénovation énergétique, c'est surtout pas une affaire individuelle, c'est un projet de territoire et nos maires le démontrent au quotidien.
Et demain, les maires, justement, ils auront plus d'importance dans ce projet.
Absolument, des objectifs de rénovation ambitieux que les habitants, justement, ont besoin en proximité. Et lorsqu'on veut rénover sa maison, on a besoin d'explications concrètes, de conseils d'accompagnement. Et les collectivités sont les mieux placées pour vous justement l'apporter, ce conseil.
Allez Laurent, pour conclure, si on devait retenir une chose depuis ce salon de l'Association des maires d'Île-de-France.
Eh bien, que la rénovation énergétique, ça ne se joue pas au niveau national, ça se fait avec tout simplement les coups de pouce des communes, avec les espaces conseils France Rénove, et vraiment, allez pousser la porte de votre mairie et poser ces questions. Est-ce que vous avez des aides pour la rénovation énergétique ou l'adaptation de mon logement pour le bien vieillir?
Merci Laurent Permas et merci au salon de l'AMIF, l'Association des maires d'Île-de-France, de nous accueillir aujourd'hui. Comme quoi, derrière la rénovation énergétique de nos logements, il y a aussi tout un travail mené par nos communes et nos élus locaux. À la semaine prochaine sur Sud Radio.
Sud Radio, parlons éco-rénovation.
Avec Sofinco, lancez vos travaux d'éco-rénovation pour baisser votre consommation d'énergie.
On revient dans quelques minutes, les amis, après une petite pause publicitaire. On répondra aux questions de nos auditeurs. Notamment, on va parler avec vous, Bérénice, de problèmes de sécurité avec la police municipale. Et nous recevrons également notre grand invité. Il est avec nous sur le plateau, Stéphane Baudet, maire d'Évry-Courcouronnes et surtout président de l'Association des maires d'Île-de-France. Ne zappez pas, on se retrouve tout de suite après.
Basile, votre application de recherche immobilière, présente
Sud Radio, parlons immo, Sylvain Lévy-Valency.
Et voilà les amis, de retour sur le plateau de Sud Radio, on est ravis de vous retrouver pour ce week-end. Voilà, vous êtes en famille, mais vous écoutez votre émission préférée de 12h à 13h chaque samedi sur Sud Radio et sur 82 fréquences. On est ravis d'être avec vous. On va parler de votre logement et répond surtout à vos questions. Et ces questions, elles ont été posées, Bérénice,
par SMS au 7-20-18. Vous envoyez d'ailleurs votre message précédé de IMO et deux MO et on y répond si vous avez des problèmes avec votre logement, avec vos voisins. Voilà, on répond avec un expert. Et là, c'est Mathieu qui nous a écrit. Mathieu qui part en voyage en juin et qui s'inquiète, qui a peur d'être cambriolé.
Eh bien, super. On va essayer de répondre à cette question dans cette rubrique. C'est un beau conseil.
Avec la Massif, économisez en changeant d'assurance de prêt immobilier. Conditions sur massif.fr. La Massif présente...
Sud Radio, parlons immo, ça vous concerne.
Eh bien voilà, sur le plateau cette semaine, donc, on a reçu un SMS effectivement de Mathieu qui nous parle de problèmes de sécurité.
Et oui, il part en Thaïlande là au mois de juin et il s'inquiète, il nous dit qu'il a peur de se faire cambrioler. Il nous demande des conseils, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter de se faire cambrioler? Alors, on a fait appel au meilleur des experts, c'est Thierry Colomard, le président de la Fédération nationale des policiers municipaux de France. Bonjour Thierry, vous représentez la police municipale.
Bonjour, oui, tout à fait.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est vrai que là, on est à l'approche des grandes vacances. Bon, certains commencent à partir comme Mathieu au mois de juin. Il y en a qui vont partir en juillet, en août. Ça a commencé avec les ponts en mai. Oui. Comment on fait pour ne pas se faire cambrioler? Alors moi, j'ai noté les chiffres de l'année dernière. Il y a quand même eu, ça a été communiqué par le ministère de l'Intérieur, 212 000 cambriolages de logements. Donc ça fait 580 cambriolages par jour. Wow. Je ne pensais pas que c'était aussi gros. Et pourtant, il y a une baisse de 3% l'année dernière. Donc, on est sur la bonne voie.
Ah, peut-être ont-ils écouté les conseils de l'année dernière.
Ah oui, c'est grâce à vous. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas se faire cambrioler?
Alors, déjà, on prépare son départ en vacances, mais il faut aussi préparer son absence. Et préparer son absence, eh bien, c'est déjà, puisqu'on a des objets de valeur, c'est déjà les mettre en sécurité. Ouais. Relever les numéros de série, prendre des photos, tout ça pour éventuellement, en cas de cambriolage, puisse...
Ils font ça, les Français, ils arrivent.
Très peu, justement. Ouais. Il faut le faire. Hein. Il y a des numéros de série, on prend un numéro de série.
Les numéros de série, c'est quoi? C'est des bijoux?
Par exemple, les montres...
Moi, j'ai pas de bijoux avec
Tu vas avoir un petit gravage.
Je suis pas assez riche.
S'il n'y a pas de numéro de série,
c'est pas grave si on les vole.
On prend des photos.
La pacha de quartier, elle est pas.
Ah, j'aimerais bien.
On prend des photos, on regarde des factures.
Non, mais c'est important ce que vous dites, parce que quand on est en galère après, c'est là qu'on se dit, si j'avais su, je l'aurais fait, et la montre à papa, etc., et les cadeaux, etc.
Donc on prend en photo.
Bah là.
On prend photo.
C'est mieux, hein.
On garde les factures aussi.
On garde les factures.
Oui. Mais qu'est-ce qu'on fait si on les a pas ? Mais si on les a pas, on fait quoi ?
Mais au moins avec les photos, l'assureur pourra mandater un expert qui regardera les photos et éventuellement, voilà, il y aura un remboursement, pas à la hauteur de la valeur de l'objet, mais enfin, en tout cas, il y aura quand même quelque chose. Et puis aussi, ce qui est important, maintenant, on est tous sur les réseaux sociaux, c'est d'éviter de poster les photos pendant qu'on est en vacances.
Ah bah oui, il faut faire croire qu'on est chez soi.
Voilà.
On poste des photos, j'ai pas de vacances, je suis chez moi. Est-ce qu'on prévient ses voisins ?
Alors, on prévient ses voisins de son absence, bien sûr. Si un voisin peut venir relever le courrier, ça évitera que la boîte aux lettres soit pleine et que, on se dit, tiens, il y a personne depuis longtemps.
C'est vrai ce que vous dites, j'ai entendu. Alors, on m'a raconté ça, apparemment, dans un coin dans le sud. Bah, d'ailleurs, c'est un animateur de Sud Radio. C'est notre Thierry des voitures qui m'a expliqué que dans le sud, dans un endroit, en fait, il y a des...
Jean-Luc Porot, c'est Jean-Luc Porot.
Jean-Luc, oui. Pardon, pourquoi je dis Thierry ? C'est Jean-Luc ? C'est vous, Thierry. Il y a un réseau qui met dans la boîte aux lettres, il fourre plein de prospectus et en fait, il regarde le lendemain si les prospectus, 2-3 jours après, n'ont pas été enlevés, c'est que la maison est vide et donc il cambriole. Voilà, donc c'est une astuce, il faut faire attention.
Voilà, faire relever le courrier. Ouais. Éventuellement tondre le gazon, si on est absent assez longtemps, trop longtemps, si le voisin vient tondre le gazon, c'est qu'il y a de l'activité.
Il faut penser à tout en fait.
Oui, il faut penser à tout.
C'est fou.
D'ailleurs, puisqu'on en parle de penser à tout, éviter de laisser une échelle traîner dans le jardin.
Ah oui.
Et oui, les cambrioleurs, ils vont pas se trimballer avec une échelle et s'ils en rencontrent une, ils vont pouvoir l'utiliser pour grimper.
Et rapidement, vous nous aviez parlé d'un dispositif. On peut prévenir la police municipale ou c'est la... Oui, c'est la police municipale.
Alors, il y a les opérations tranquillité vacances.
Voilà.
On s'inscrit auprès de la police municipale, la gendarmerie ou de la police nationale et les patrouilles seront accentuées autour de votre domicile.
Donc on s'inscrit en ligne, on dit quand on part, on dit mon appartement, ma maison sera vide.
Voilà.
Et il y a une patrouille qui passe plus régulièrement.
Tout à fait. On peut aussi éventuellement...
Et c'est gratuit.
Oui, bien sûr. On peut aussi éventuellement monter une association de voisins vigilants.
Ouais.
D'ailleurs, c'est quelque chose qui est assez performant, d'ailleurs, les voisins vigilants.
Et surtout, et qui fonctionne.
Voilà, on met une pancarte à l'entrée de la résidence avec marqué « Attention, voisins vigilants ». Ça évite quand même certains cambriolages. Ça n'arrête pas tout, puisque les risques zéro n'existent pas, malheureusement. Voilà, tout ça, c'est des petites astuces à connaître.
Ouais.
Éviter, ça c'est important, éviter de cacher les clés sous un pot de fleurs, sous le paillasson.
Pas, des choses toutes bêtes, en fait, voilà, de logique.
Tout ce dont vous avez pensé, les cambrioleurs le savent déjà.
Eh bien, merci beaucoup Thierry Colomard, le président de la Fédération nationale des policiers municipaux de France. Merci d'avoir été avec nous en plateau pour ces conseils, ces précieux conseils.
Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne.
Avec la Massif, changez votre assurance de prêt immobilier et économisez. Conditions sur massif.fr.
Voilà, de retour sur le plateau de Sud Radio. On est ravis d'être avec vous. Passez un bon week-end. On a délocalisé notre plateau ici au Salon des maires d'Île-de-France. Et justement, c'est l'heure de recevoir notre grand invité qui est avec nous. Il nous fait l'honneur d'être parmi nous. Stéphane Baudet, bonjour.
Bonjour.
Stéphane Baudet, vous êtes le maire de Évry-Courcouronnes, président de l'Association des maires d'Île-de-France. Vous avez aujourd'hui une vision de l'ensemble de votre territoire qui vous donne, grâce à votre fonction de la MIF, une vision aussi sur toutes les préoccupations de vos collègues. Moi, j'ai envie de vous poser une question simple. On est dans une très grave crise du logement, Stéphane, vous le savez. C'est presque désespérant. Est-ce qu'aujourd'hui, les maires ont le pouvoir ? Peuvent-ils avoir le pouvoir de résoudre cette grave crise du logement en France ?
Ça leur est rendu évidemment de plus en plus difficile. D'abord, bonjour à tous, bien sûr, pardon. Parce que pour construire du logement, il faut avoir du foncier, il faut avoir une acceptabilité des habitants et il faut avoir accessoirement les moyens de créer éventuellement les services publics qui vont permettre d'accueillir convenablement les populations. Quand je dis ça, je nous renvoie au débat que nous avons sur votre plateau tous les ans à l'occasion du salon. On le voit par exemple cette année. On avait lutté et obtenu l'an dernier une prime pour les maires bâtisseurs. Elle servait justement à éventuellement surdoter les collectivités qui construisent beaucoup pour construire les bâtiments publics qui sont nécessaires pour accompagner les populations nouvelles. Cette prime a été une fois de plus annulée cette année. Donc, oui, d'une certaine manière, les maires peuvent en avoir la volonté. Est-ce qu'ils en ont le pouvoir ou la faculté financière ? C'est évidemment de plus en plus difficile, surtout en région Île-de-France, surtout parce que c'est un enjeu majeur de transition écologique et sociale. Quand on vous impose Lausanne, qui est parfaitement légitime, sur les terres agricoles et que de facto on vous demande de reconstruire la ville sur la ville pour densifier la ville, c'est-à-dire sur des secteurs qui sont plus chers, qui sont parfois déjà construits, où il faut déconstruire, dépolluer, ce qui rend la construction encore plus chère. Bref, on voit bien que c'est encore plus difficile.
Stéphane, quand on interroge vos collègues, effectivement, ils nous disent tous la même chose. Il y a effectivement la hausse des coûts de construction pour les promoteurs qui réduit considérablement leur marge de manœuvre, absence de foncier, difficultés sur le marché immobilier avec des contraintes réglementaires. Je peux même aller jusqu'à l'inflation normative réglementaire qui pèse lourdement sur vous aussi, les maires. Pourquoi c'est plus compliqué ? Ah, carrément devant la caméra, mais c'est pas grave.
Hein. On est dans un salon, c'est là.
Merci, c'est sympa, revenez la semaine prochaine. Hein. Alors, Stéphane, pourquoi on est sur ce goulot d'étranglement ? Parce que très franchement, quand on voit la façon dont on vous impose la norme, on se dit, mais c'est plus possible, quand on est maire, de faire face aux demandes. Parce que je sais ce que vous faites. Vous recevez vos administrés tous les vendredis à l'hôtel de ville ou tous les jours, qui viennent désespérés pour un logement, vous le savez ça ?
Ah bah oui, j'ai 6500 demandes de logements à Évry-Courcouronnes pour 300 logements qui se libèrent par an. Alors, donc la pression, elle s'accentue. Comment on fait ? En tout cas, nous, on essaye de trouver des partenaires, on essaye de trouver de nouvelles voies de financement. Ce qu'on sait, c'est qu'au-delà du fait que ça coûte plus cher, ce que vous avez indiqué, il faut aussi indiquer que la création d'un projet, la réalisation d'un projet est quasiment doublée dans le temps par rapport à avant. Ça compte aussi, c'est-à-dire entre le moment où vous décidez de construire des logements et le moment où vous le livrez, vous êtes maintenant sur 4 à 5 ans quand vraiment les feux sont ouverts, ce qui devient complètement délirant dans un pays où on dit qu'il manque 1 à 2 millions de logements, dans lequel le foyer familial a complètement éclaté. Moi, j'ai dernière statistique à Évry-Courcouronnes, vous voyez, elle a 48 heures. Voilà, je l'ai, je vous la livre. Sur mes 6500 demandes de logement à Évry-Courcouronnes, j'ai 55% de familles monoparentales avec à minima 3 enfants.
Waouh.
La réalité sociale aujourd'hui en Ile-de-France, dans une ville-préfecture à 35 km de Paris. Donc évidemment, les maires sont très lucides sur la nécessité de construire. Je crois qu'on est quand même un certain nombre à avoir démontré que le vieux paradigme maire bâtisseur, maire battu n'est pas forcément vrai, puisqu'on est encore là pour beaucoup d'entre nous, même si on a livré beaucoup de logements. Mais oui, c'est de toute évidence de plus en plus difficile, d'autant qu'en Ile-de-France, en dehors évidemment Paris et la question des résidences secondaires, nous, notre marge de manœuvre, elle est finalement très très faible, puisqu'on n'a pas de logement vide.
C'est très clair.
Ce n'est pas le cas en province.
C'est très clair. Justement, ben voilà, les maires sont en première ligne face aux difficultés du logement. Dans un instant, justement après la pause, on va essayer de débaucher peut-être des solutions concrètes pour sortir le pays de l'ornière de cette crise du logement à l'aube d'une élection présidentielle qui va être majeure dans notre pays. On va se retrouver dans un instant et on reste ensemble. Vous êtes dans Parlons Immo, votre radio sur Sud Radio. Votre émission sur Sud Radio, plus exactement. On va dire les choses comme ça.
Basile, votre application de recherche immobilière, présente
Sud Radio, Parlons Immo, Sylvain Lévy-Valency.
Et voilà de retour sur le plateau de Sud Radio pour votre émission Parlons Immo tous les samedis 12h, 13h. On parle de votre immobilier et de votre logement, les amis. Voilà, on est toujours accompagné de notre grand invité qui nous fait l'honneur d'être parmi nous. Merci Stéphane Baudet de venir sur
avec
le plateau de Sud Radio. On va s'interroger ensuite avec vous, Grégoire, sur vivre bien dans une maison saine.
Oui, Sylvain, on verra ensemble pourquoi on se sent bien dans certaines maisons, mais pas dans d'autres.
Eh bien voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Sud Radio. Je le rappelle, Stéphane Baudet, vous êtes président de l'Association des maires d'Île-de-France et vous êtes également maire d'Évry-Courcouronnes. Les Français veulent davantage de logements, ça, c'est très clair. Mais il y a un paradoxe. Dès qu'il y a une grue en face de chez eux ou qu'il y a des projets de construction, hop, les recours et ils ne sont pas contents. Ce n'est pas un paradoxe, hein. Les mêmes Français qui, le vendredi,
oui, mais ça a toujours existé. Moi, je suis maire d'une ville nouvelle, c'est-à-dire une ville où, quand les gens sont arrivés en 1972, 73, 74, 75, ils avaient un plan d'aménagement qui leur indiquait que cette ville ferait 300 000 habitants et qu'autour de chez eux, on allait construire. Une fois qu'ils emménageaient, j'ai des photos incroyables de 1972 en noir et blanc, une fois qu'on avait construit chez eux, ils manifestaient pour qu'on arrête de construire au bout de leur jardin. Ça a, pour le coup, toujours existé, surtout si celui qui est dans son logement, en plus propriétaire occupant, n'a pas besoin lui-même de logement. Donc il y a une forme d'inadéquation entre celui qui voit se construire et celui qui a besoin d'un logement. Non, la réalité, c'est l'explosion de la cellule familiale. La réalité, c'est que on a pas assez construit ces dernières années. La réalité, c'est qu'il y a une distorsion très très forte entre des besoins de logement très forts en Ile-de-France, où on a quand même une démographie positive de plus de 40 à 50 000 habitants par an en Ile-de-France, hein, dans une région qui a déjà quasiment presque 13 millions d'habitants. Donc donc c'est considérable. Alors, on a 200 000 mouvements à l'intérieur de la région, mais on a quasiment 50 000 personnes nouvelles qui viennent s'agréger chaque année par rapport à des territoires en France où il y a du logement qui est vide. Voilà, et donc quand on fait des statistiques, celles et ceux qui ne veulent pas construire de logement nous disent « mais du logement, il y en a en France, il n'y a pas besoin d'en construire ». Oui, bah, très bien, mais allez accepter d'aller habiter dans la Creuse plutôt qu'en région parisienne.
Voilà, là, vous parlez de certains technocrates qui sont bien tranquilles là où ils sont.
Voilà,
quand on leur pose la question...
Hashtag la vraie vie.
Quand on leur pose la question, ils disent « attendez, les courbes démontrent qu'il y a une dénatalité dans le pays », ce qui est vrai.
La question de dénatalité, ils sont très sympathiques tous.
Et vous disent,
moi, on peut m'expliquer qu'il y aura moins d'habitants en France en 2050. Moi, je suis maire d'une
ville
où les, gens sont dans la merde et attendent un logement demain matin. Voilà. Et demain matin, c'est 2026, c'est pas 2050.
Voilà.
Où ils auront eu 150 millions de chances de mourir, d'avoir des enfants, de changer de pays, de déménager ou que sais-je encore. La question, c'est comment on règle la situation sociale des vrais gens aujourd'hui.
Bien sûr, bien sûr. Alors justement, Stéphane, on parle beaucoup de transformation de bureaux en logement, hein, avec les vacances, notamment en Île-de-France. Question, alors juste comme ça, est-ce que c'est une solution ou c'est un mythe ? C'est surestimé ? Et les centres-villes, centres-bourgs ont-ils un rôle à jouer dans la relance du logement ? Franchement.
Sur la question de la transformation des locaux de bureaux, les locaux existent. Si vous prenez le centre-ville d'Évry-Courcouronnes, ville-préfecture de l'Essonne, on a des bureaux années 80, années 70, complètement obsolètes, qui ne seront plus jamais du bureau en centre-ville, mais entre le propriétaire foncier ou du bâtiment de bureau qui, évidemment, attend un prix digne de son bâtiment, le coût de réhabilitation qui est parfois au-dessus du coût de reconstruction du neuf, sa transformation nécessiterait des modèles économiques ou des modèles de financement qui aujourd'hui clairement n'existent pas, notamment dans les zones tendues ou les zones populaires où on n'a pas la charge foncière qui permet de dégager suffisamment de bénéfices pour aller dans ces opérations. Enfin, c'est assez mécanique.
Non, mais Stéphane Baudet, est-ce qu'on peut faire concilier finalement la transition écologique et environnementale qu'on a nécessairement besoin dans les villes, avec notamment les problématiques de ressources énergétiques et le besoin urgent de logement. Est-ce qu'on peut se poser cette question ?
Se poser la question, c'est une bonne chose. Oui, on peut le faire, mais il faut des moyens pour le faire. Je sais bien que je répète toujours la même chose, ça fait 25 ans que je suis maire. D'ailleurs, quand j'étais élu à 25 ans, on pensait que les villes étaient pauvres. Je pense qu'on était très riches à l'époque, vu où on est arrivé 25 ans après. Mais tout ceci est quand même c'est une question mécanique de moyens. Encore une fois, il nous faut aujourd'hui, c'est pour nos populations, pour nos enfants, pour ma petite fille, il nous faut construire le pays de demain dans les contingences des transitions que l'on est en train de vivre. Donc, que l'on se dise qu'on sanctuarise des terres agricoles, oui, il faut le faire. Qu'on continue à construire du logement et à densifier la ville sur la ville tout en apportant le verdissement, les oasis de verdure, etc., etc. Oui, il faut le faire. Il faut le faire parce qu'on vient s'adosser à des services publics existants, parce qu'évidemment, du coup, on fait un peu d'économie sur les charges connexes à la construction du logement. Mais encore une fois, on le fait sur du foncier plus cher, sur des terres plus chères, sur une nécessité de mettre des investissements complémentaires. Et comme dans le même temps où on a cette forme d'inclinaison un peu naturelle, un peu urgente, même, on continue petit à petit de nous baisser nos dotations. Alors on nous baisse nos dotations, on nous enlève notre autonomie fiscale et financière, on nous fait passer par des appels à projets qui passent maintenant dans les mains des préfets, qui nous permettent de toucher de l'argent que si on rentre dans les fourches codines politiques imposées par des gouvernements, ce qui en matière d'autonomie pose quand même une vraie question, parce que c'est notre réalité. Donc on voit bien qu'au bout d'un moment, tout ceci finit par ne plus fonctionner et ne nous donne pas les moyens de repartir à l'initiative.
C'est très clair. Justement, vous allez rester avec nous parce qu'on a une grande question à vous poser. En fin d'émission, on pose toujours un débat avec une parole libre et qui circule justement librement pour pouvoir échanger sur le rôle majeur des maires. Merci Stéphane Baudet. Je rappelle que vous êtes le maire d'Évry-Courcouronnes, président de l'Association des maires d'Île-de-France. Il est temps, mes amis, de parler maintenant de la qualité de l'air dans votre logement.
Avec Murprotec, agissez contre l'humidité et prévenez les risques de l'habitat sur votre santé. Murprotec vous présente...
Sud Radio, parlons Immo, Maison Saine.
Oui, bonjour à toutes et à tous, bienvenue donc dans Maison Saine, votre rendez-vous sur Sud Radio pour mieux comprendre comment notre logement influence notre santé. Alors cette semaine, je vais vous faire une chronique solo, on est en direct du salon de l'Association des maires d'Île-de-France, le rendez-vous des maires et des acteurs qui imaginent les villes de demain. Et au milieu des discussions sur les écoles, les espaces publics ou les logements, une question m'est venue. Pourquoi est-ce qu'on se sent bien dans certaines maisons et moins bien dans d'autres maisons ? Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Vous entrez quelque part, vous vous sentez immédiatement à l'aise, l'aise. À l'inverse, dans certains logements, sans vraiment savoir pourquoi, vous ressentez une forme de fatigue, d'inconfort ou même d'irritation. Alors, est-ce que c'est seulement une impression ? Eh bien, pas forcément. Pendant longtemps, on a considéré la maison comme un simple abri. Aujourd'hui, on sait qu'elle influence beaucoup plus que cela, parce que nous passons en moyenne près de 90% de notre temps dans des espaces clos. Autrement dit, notre logement, il devient l'un des environnements auxquels notre corps est le plus exposé. Et le premier facteur, c'est l'air. On ne le voit pas, mais on le respire près de 20 000 fois par jour. Et lorsque l'air est mal renouvelé, le taux de CO2, il augmente. Résultat, on peut ressentir de la fatigue, des difficultés de concentration, des maux de tête ou même une sensation d'air lourd. Alors sans toujours faire le lien avec la pièce dans laquelle on se trouve. Le deuxième facteur, c'est l'humidité. Une maison trop humide, elle est rarement confortable parce qu'elle favorise les moisissures, les acariens, les odeurs de renfermés. Et même lorsque ces phénomènes ne sont pas visibles, notre organisme, lui, il les perçoit. Parfois par une gêne respiratoire, parfois par une sensation de froid persistante, parfois simplement par un sentiment diffus d'inconfort. Le troisième facteur, c'est la lumière naturelle, parce que nous sommes biologiquement programmés pour vivre au rythme de la lumière du jour. Un logement lumineux, il favorise, lui, l'éveil, l'énergie et le moral. À l'inverse, des pièces sombres peuvent accentuer une sensation de fatigue ou d'enfermement. Et puis, il y a tous ces petits détails auxquels on ne pense pas forcément. Une chambre trop chaude, un air trop sec, un logement qui conserve mal la chaleur, une mauvaise acoustique, des odeurs persistantes. Pris séparément, ces éléments, ils semblent anodins, mais ensemble, ils façonnent notre bien-être quotidien. Finalement, ce qui est intéressant, c'est que la maison idéale n'est pas forcément la plus grande, ni la plus moderne, ni la plus chère. C'est souvent celle dans laquelle on respire bien, celle où on dort bien, celle où l'on se sent bien, même sans y penser. Alors aujourd'hui, depuis le salon de l'Association des maires d'Île-de-France, retenons peut-être cette idée simple. Une maison ne se résume pas à ses mètres carrés, elle influence notre sommeil, notre énergie, notre humeur et même parfois notre santé. Et lorsqu'on se sent bien chez soi, ce n'est pas seulement une question de décoration, c'est souvent le signe que notre logement prend soin de nous. Très bonne journée à toutes et à tous. N'oubliez pas de vous rendre sur le site de maison-saine.fr si vous avez la moindre question. Et puis à bientôt pour une nouvelle chronique Maison Saine sur Sud Radio.
Avec Murprotec, agissez contre l'humidité et prévenez les risques de l'habitat sur votre santé.
Voilà, de retour sur le plateau, une petite pause et on se retrouve juste après pour la dernière partie de notre émission. Au programme, on va justement, comme on le fait tous les 15 jours, faire le tour des biens coups de cœur de la rédaction. Ensuite, on fera place à notre grande question hebdomadaire avec notre grand invité. A tout de suite.
Basile, votre application de recherche immobilière présente
Sud Radio, parlons immo, Sylvain Lévy-Valency.
Voilà, de retour sur le plateau de Sud Radio, on est ravis d'être avec vous pour votre émission hebdomadaire Parlons Immo sur Sud Radio tous les samedis 12h, 13h et rediffusé à midi le mardi sur Radio Immo. Alors tout de suite, comme il est d'usage, on va faire le tour de France des biens coup de cœur de la rédaction. Cette semaine, où est-ce que vous nous emmenez ? Je pense qu'on va aller dans le sud là.
Oui Sylvain, pour ce premier bien, nous sommes à Montpellier. Je vous ai trouvé un T3 de presque 75 mètres carrés entièrement rénové. Un appartement qui allie charme de l'ancien et grande prestation moderne. C'est ce qu'on peut lire sur l'annonce. Notre appartement, il se trouve au troisième et dernier étage sans ascenseur. Il se compose d'une entrée, d'un salon très lumineux grâce à deux portes-fenêtres donnant sur des petits balcons de ville. Collé au salon, vous avez aussi une cuisine neuve et entièrement équipée. Ensuite, un grand couloir avec plusieurs fenêtres qui dessert deux chambres, un espace de rangement et puis un petit bureau. Enfin, des WC séparés et une salle de bain. Vous avez le double vitrage, le chauffe-eau thermodynamique, l'isolation, tout y est pour faire plaisir à notre ami Laurent Permas. Le diagnostic de performance énergétique, il est de B, donc ce qui est, je crois, chers amis, une belle performance. Ce logement, il est disponible au tarif de 289 000 euros sur le site de Basile.
Voilà, apport 20%.
Oui, donc 57 800 euros et un emprunt sur 25 ans. Alors moi, je suis resté à 3,2%.
On écoute les conseils de Bérénice, on va voir sa banque qui font une promotion sur les taux.
Voilà,
on a un bon dossier.
Un courtier,
oui. Voilà, un courtier, surtout un courtier, c'est important. Et rapidement, vous nous envoyez, on est
la Ria d'Étel,
on est en Bretagne.
Oui, on vous a souvent parlé d'île à vendre, ça fleurit en ce moment, figurez-vous. Ouais. Et une nouvelle est mise en vente pour la somme de 2,5 millions d'euros dans le Morbihan. Nous sommes à Rieck, au cœur de la Ria d'Étel, entre Quimper et Vannes, grosso modo. Une île de luxe à vendre qui s'étend sur plus de 6 hectares. Vous y trouverez 5 plages, à choisir donc en fonction de votre humeur, c'est pas mal. En revanche, et contrairement à plusieurs îles, Rieck est équipé de plusieurs bâtiments, dont une maison de 140 mètres carrés ainsi qu'une maison de gardien sur 3 niveaux. Alors attention quand même, il y a des petits travaux à prévoir d'ailleurs, puisque le logement principal affiche la note G au diagnostic de performance énergétique. Bon, 2,5 millions d'euros, hein, je vous ai dit. C'est une certaine somme, surtout que l'île voisine de Fandouillèque avait été mise sur le marché pour 2,8 millions d'euros il y a 2 ans et qu'elle n'a toujours pas trouvé preneur. Voilà, donc deux îles si vous avez 5 millions d'euros à claquer.
Ouais, une bagatelle, hein.
Alors, pour notre île, moi, je vous conseille quand même de surveiller Netflix, puisqu'elle est mise en vente par une certaine agence immobilière familiale bien connue des téléspectateurs. Affaire à suivre.
Merci Grégoire. Et place maintenant à la grande question de la semaine.
Sud Radio, parlons IMO. Sylvain Lévy-Valency.
Eh bien voilà, la grande question, comme chaque semaine, vous savez, en fin d'émission, les amis, un peu partout en France, vous savez, vous nous envoyez des éléments et souvent, avec la rédaction, on évalue, on se dit, tiens, il y a tel sujet dont on voudrait parler. Eh bien écoutez, comme on est au Salon des maires d'Île-de-France, on veut parler du rôle majeur des maires qui sont à l'os, dont on a vu une baisse des dotations qui est absolument hallucinante, des maires à qui on transfère des compétences sans forcément y associer les recettes qui vont bien. Les maires, précisément, prises en étau, parfois, alors on va être un tout petit peu polémique, par un État peut-être qui se jacobinise, qui veut être un État centralisateur. C'est la question que l'on va se poser, n'est-ce pas, Bérénice ?
Oui, c'est vrai. Et alors peut-être avoir l'avis de Stéphane Baudet, le président de l'Association des maires d'Île-de-France, qui est avec nous, qui est maire aussi d'Évry-Courcouronne. Un petit mot peut-être sur ça. Comment vous vous sentez, vous, en tant que maire ? Et j'avais envie aussi de vous poser une question sur la taxe d'habitation. La taxe d'habitation, on n'en a pas parlé. C'est vrai qu'elle a été supprimée à l'initiative d'Emmanuel Macron. C'est un manque à gagner pour les maires. On le voit, hein, ça freine certains maires, hein, sur certains projets, notamment des logements sociaux. Est-ce que ça a changé certaines choses ? Est-ce que ça a retardé certains projets ? Comment vous...
D'abord, ça a un impact que vous n'avez pas évoqué. C'est la rupture du lien démocratique réel entre le maire et ses administrés.
Ah oui.
Dans une ville comme la mienne, 80 000 habitants, seuls 32% des habitants payent une taxe foncière. Ça veut dire que 68% des habitants n'ont aucun lien fiscal avec la collectivité, sans se poser la question que quand ils payent la cantine chez moi à 1 euro et que le repas me coûte consolidé, bâtiment, fluide, personnel, etc., 15 euros, sans se poser la question de savoir si c'est la ville qui se goinfre les 14 euros de différence. C'est ça la réalité. La deuxième remarque, et ça c'est systématique avec tous les gouvernements, j'ai une chance, je ne sais pas si c'est une chance, je suis maire depuis 25 ans, donc j'ai connu 4 présidents de la République, des dizaines de premiers ministres, parce que là pour le coup ça va quand même de plus en plus vite, et donc de facto de toutes les couleurs politique.
Oui.
Voilà. Et cette espèce de volonté, dans le champ républicain, on est comme ça.
Voilà.
Mais de volonté recentralisatrice, assez clairement. Donc, de retrait, je l'ai déjà évoqué sur votre
Stéphane,
plateau.
Vous êtes d'accord qu'il y a un État qui se centralise.
Oui, mais je veux finir parce que c'est hyper important. C'est surtout notre perte d'autonomie. C'est-à-dire que quand on enlève la taxe d'habitation, qui est une recette de la ville dynamique.
Et directe.
Elle est directe, mais elle est dynamique. Je choisis de l'augmenter ou pas, j'en fais un petit peu ce que j'en veux,
bien
et
sûr.
Je la reçois. Elle est remplacée par des dotations de l'État qui, elles, ne sont pas dynamiques, qui, à la fin, ne sont pas des dotations, mais encore une fois, des appels à projets qui ne donnent pas des subventions ou des recettes aux collectivités,
bien
mais
sûr.
Dans la main de préfets, que les préfets distribuent si ça rentre dans les fourches codines de la volonté gouvernementale. Donc on n'a pas remplacé la taxe d'habitation, donc on a diminué, non seulement on a diminué nos recettes, on a diminué notre capacité à agir, mais on a en plus diminué notre capacité à être autonome. Je rappelle quand même, au-delà du fait qu'on ait une clause de compétence générale, qu'on est élu sur la base d'un programme électoral et qu'on nous change les règles toutes les semaines et que toutes les semaines, il faut qu'on aille expliquer à nos habitants que le programme électoral sur lequel on a été élu il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 2 ans, eh ben on ne peut plus le réaliser parce que tel ou tel, etc. Et je passe sur les décisions que prend l'État sur mon propre budget sans me demander mon avis. Le point d'indice bien des sûr. Fonctionnaires, qui est sans doute une nécessité, mais qui devrait être concertée parce qu'à la fin, c'est la ville qui paye, ce n'est pas l'État à notre place. L'exonération du foncier bâti de certains bailleurs sociaux qui n'est pas compensé, c'est-à-dire que l'État décide d'arrêter, de proposer aux bailleurs sociaux de ne plus payer le foncier à la ville, c'est-à-dire une recette qui va à la ville sans nous demander notre avis. C'est un peu ça notre réalité.
Il nous reste une minute. Nous sommes à l'aube d'une élection majeure et d'une orientation politique majeure dans notre pays. Parfois, on enferme les Français entre le choix entre deux radicalités. Je paraphrase un peu, mais entre la peste et le choléra. Comme s'il n'existait que ces deux alternatives. Moi, j'ai envie de vous poser cette question. Avec le long parcours politique que vous avez, vous, Stéphane Baudet, en moins d'une minute, est-ce qu'il y a une alternative pour le pays en 2027 avec une échéance singulière et majeure?
Vous avez 30
Alors,
secondes.
Du point de vue philosophique ou du point de vue communal, il y a forcément une solution. Moi, je suis maire d'une ville-préfecture dont les maires adjoints vont de NPA, extrême-gauche, aux Républicains. Ça marche à l'échelle locale. La démonstration a été faite à l'échelle nationale qu'ils sont incapables de se mettre d'accord. C'est eux qui nous renvoient vers les extrêmes. Donc qu'ils prennent leurs responsabilités et qu'on ait une offre politique qui parle aux Français avec une volonté de véritablement réformer un pays dont le modèle social a 80 ans sans avoir été profondément réformé, alors même que les questions démographiques, les questions de durée de vie, etc., ont complètement changé et mis à mal un système qui était évidemment particulièrement vertueux il y a 80 ans et qui aujourd'hui ne peut plus être financé et donc ne peut plus fonctionner.
Merci Stéphane Bonnet, merci à tous ceux qui nous ont écoutés de leur patience, mais aussi de partager les interactions que vous avez avec nous, c'est-à-dire vous nous écrivez et on répond à vos questions. Je rappelle que cette émission sera rediffusée mardi à midi sur Radio Immo. Vous allez passer une très très bonne semaine, prenez soin de vous et on se retrouve samedi prochain dès 12h sur Sud Radio, bien sûr.
Sud Radio, parlons immo. Sylvain Lévy-Valency.
Avec Basile, votre application de recherche immobilière.